Welcome back.
Bien. Nous allons commencer l'enregistrement, s'il vous plaît. Olivier Crépin-Leblond prend la parole. Bonjour à tous. J'espère que la pause a été bonne. Nous allons commencer, messieurs, dames, s'il vous plaît. Il y a eu une pause. C'est passé très vite. Il y a eu une pause. Bien. Bienvenue à tous. Donc, groupe de travail d'ALAC, deuxième partie. Nous sommes dans la même salle que tout à l'heure. Nous sommes le 24 juin 2014. Et donc, il est 16h30 passé et nous avons la prochaine partie de notre réunion, la deuxième partie de notre réunion. D'abord, nous allons entendre les groupes de travail. Nous avons donc le groupe de travail de l'Académie, le groupe de travail sur les médias, l'équipe spéciale technologique, le programme pilote et le groupe de travail de formation de compétences, le groupe de travail sur les nouveaux GTLD, le groupe de travail d'at-large sur l'accessibilité à ICANN, le sous-comité sur les paramètres, et l'incorporation du groupe thématique d'Atlas dans le groupe de travail d'Atlas. Comme vous le savez, nous avons plusieurs groupes thématiques que nous voudrions réunir en un groupe régulier de travail. J'espère que les membres de ces groupes thématiques seront contents de participer donc à ces groupes de travail. Donc, nous allons donner la parole à Sandra Hofer-Richter qui va nous faire une mise à jour du groupe de travail de l'ICANN Academy. Et il s'agit d'un groupe de travail qui... Elle va aussi nous parler d'un groupe de travail qui forme les leaders. Bien, donc le programme de leadership, le programme de formation de leadership, je vois qu'il y a eu beaucoup de bon travail qui a été fait. Et il va y avoir un nouveau programme de leadership qui va avoir lieu lors de la prochaine réunion générale à Los Angeles. Alors, Sandra, vous avez la parole. Merci, Olivier, dit Sandra Hofer-Richter qui prend la parole. Cela a été annoncé, on a annoncé dans le programme que j'allais poser une question aux membres d'ALAC et aux membres des RALO pour qu'ils nous indiquent quels sont les participants possibles pour la prochaine formation de compétences de leadership, notre programme de formation de leadership, non? Bien, alors, si vous pouvez passer directement à la troisième diapo, s'il vous plaît. Nous avons eu notre réunion du groupe de travail qui a eu lieu aujourd'hui. Ça a été une très bonne réunion. Et je veux vous montrer très rapidement. C'est bien, Suzy, continuez à avancer. Voilà, c'est là que nous commençons. Bien, donc je vous dois une présentation. Je me souviens lors de la dernière réunion à Singapour, je n'ai pas pu vous montrer cette diapo parce qu'elle n'était pas visible. Vous vous rappelez qu'on avait regardé et l'académie, on avait dit que c'était un modèle pyramidal et cette structure en pyramide n'était pas suffisante pour refléter tous les efforts et pour décrire le système d'ICANN dans toute sa complexité. Donc, après le programme pilote de Buenos Aires, le groupe et quelques autres personnes ont travaillé sur une nouvelle façon d'exprimer les efforts et d'apprentissage réalisés au sein de l'ICANN. Vous voyez ici les différents programmes qui existent actuellement. Nous avons la plateforme d'apprentissage en ligne qui a été lancée comme ICANN Learn. Nous avons le programme de formation du leadership qui a eu lieu pour la première fois à Buenos Aires. Nous avons le programme de boursier. Nous avons le site internet ICANN.org. Nous avons la formation de compétences et nous avons un programme spécial pour tous les groupes, les organisations de soutien et les comités consultatifs qui s'appelle donc programme de formation de compétences. Ici, vous pouvez voir, nous avons montré donc les différents groupes. Nous ne voulions pas voir les gens en fonction de leur unité constitutive ou de leur groupe de parties prenantes, mais les gens qui entraient dans ICANN comme boursiers, comme nouvel arrivant, comme chercheurs, comme experts, comme personnes qui contribuaient, comme personnes du personnel, comme leaders. Donc, selon, vous pouvez entrer dans ce système à différents stades, à différents niveaux. Yaobi est un bon exemple. Il est rentré comme boursier, ensuite il est devenu un membre d'ALAC, ensuite il a été un leader, ensuite il a contribué, maintenant c'est un expert, c'est un personnel de l'ICANN. Donc voyez, il est arrivé à la cime, mais il peut de nouveau rentrer dans le système comme nouvel arrivant et comme nouvelle unité constitutive. C'est ça le bon côté de ICANN, c'est qu'on peut avoir tous les rôles à tout moment. Voilà. Ici, vous voyez donc ce groupe de travail qui cherchait des options sur la façon donc de trouver son chemin dans ICANN. Lorsqu'on rentre comme un nouvel arrivant, on va donc passer par les points en bleu et on va voir tous les programmes qui sont utiles pour un nouvel arrivant. Et ensuite, on peut revenir à une étape ultérieure. La même chose, si vous rentrez dans ce cercle comme chercheur, vous pouvez revenir. Vous pouvez devenir observateur, vous pouvez revenir ensuite comme chercheur ou comme expert. Voilà, ce sont les différentes manières de rentrer, de sortir de ce cercle en donc ayant différentes fonctions, en assumant différents rôles. Bien, je voulais seulement vous donner une petite mise à jour, donc on va continuer à avancer. La prochaine diapo. Voilà, alors je vais vous parler un petit peu du programme de formation de leadership qui a eu lieu à Buenos Aires. Donc, le prochain aura lieu à Los Angeles. Le programme pilote de Buenos Aires a duré 4 jours. Et on a déclaré qu'il était trop long. 4 jours, c'est trop long pour rester loin de chez soi, de son bureau, etc. Ensuite, il y a la réunion de l'ICANN en plus. Nous avons eu environ 25 participants, des SO et des AC et du conseil. C'est une combinaison entre donc une formation de compétences liée à la facilité et à l'orientation. Donc, nous avons des cours d'orientation pendant 2 jours et en général, pendant ces 4 jours, on est suivi avec un système de facilitation, un facilitateur. Les personnes nous ont dit qu'il valait mieux mélanger ces deux éléments pour maintenir le niveau d'activité des participants. Et donc maintenant, on est en train de voir comment on peut combiner ces systèmes de facilitation et d'orientation. Et c'est un cours qui va être donné sur 3 jours. Pour ceux à qui on a demandé leur avis, puisqu'on est en train d'essayer de trouver un consensus. Le groupe cible pour ce programme de formation de leadership sont des leaders actuels ou qui viennent de rentrer dans notre organisation. Ce qui signifie, lorsque vous regardez la liste des participants, par exemple, vous allez voir qu'on a des vétérans d'ICANN, comme Olivier, qui est un président leader actuel. Et puis, on a des participants comme Graphi, qui était un leader qui venait de rentrer dans le NOMCOM. Et donc, l'équilibre qu'il peut y avoir entre ces deux groupes est très important pour ce programme, parce que l'on ne peut pas fournir un cours de formation seulement aux nouveaux arrivants. Nous avons besoin de l'expérience des personnes qui sont au sein d'ICANN depuis longtemps pour expliquer ce que l'on fait à ICANN aux nouveaux leaders. Bien, voilà la distribution des sièges pour l'année 2014. En général, nous avons 2 sièges pour chaque groupe, pour chaque partie prenante, à l'exception de l'ALAC, qui représente 5 régions. Donc, nous avons une place pour chaque région, à l'exception de la GNSO aussi, qui ont une structure très diverse. et des unités constitutives qui sont très nombreuses, donc ils ont 9 places. Et le GAC, c'est la même chose, c'est un groupe important, donc ils ont 3 places. En général, nous avons un total de 29 participants, mais nous savons qu'ils ne seront pas tous capables de participer et qu'il y aura toujours des annulations de dernière minute. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait environ 25 participants. Voilà le programme. Cette année, ce qui compte, ce n'est pas le détail. Ce que je vais vous montrer, c'est que c'est 3 jours et qu'on va avoir un mélange de cours interactifs avec un système de facilitation, des sessions d'orientation aussi. Vous aurez 3 jours de programme intensif. Et cela aura lieu avant la réunion de l'ICAN de Los Angeles du mercredi au vendredi. On a dû choisir ces journées parce que le samedi, nous allons commencer à travailler. Certaines personnes commencent à travailler, donc il fallait finir le vendredi. Voilà. Ce qui est très important, c'est qu'au sein d'ALAC, on soit d'accord sur la manière de sélectionner les participants à ce cours de formation. Nous allons inviter tous les SO et tous les AC à nous envoyer des propositions de participants pour les places qui leur ont été assignées. Nous avons, comme je l'ai déjà dit, une place par région. Il faudra donc décider dans chaque RALO et au sein de l'ALAC qui seront les personnes qui seront envoyées. Il s'agit du leadership, du niveau de leadership. Donc, c'est le président des RALO, les représentants d'ALAC, ce type de fonction. Il est très important d'avoir un équilibre entre les nouveaux arrivants et les personnes qui ont déjà une certaine expérience au sein d'ICAN parce qu'ils vont nous aider à mener les sessions. Nous avons besoin de l'expérience des leaders pour nous aider et pour aborder certains thèmes au cours des sessions. Et nous devons aussi considérer les personnes sélectionnées par le NOMCOM que nous ne connaissons pas encore. Nous ne savons pas encore quelle sera cette sélection. Voilà la liste de participants de l'année 2013 pour la LAC. Et Beren n'a pas pu participer. Elle a eu un problème de visa. Elle n'a pas eu son visa à temps. Mais toutes les autres personnes qui sont sur la liste ont pu participer au programme de l'année dernière. Nous avons eu un bon équilibre parce que Avri Doria et Olivier Crépin-Leblanc étaient les leaders qui avaient beaucoup d'expérience et Rafid et Léon étaient des leaders qui venaient de rentrer, nommés par le NOMCOM. Donc, vous voyez ici, c'est un bon équilibre qui montre bien comment fonctionne ALAC et comment nous essayons d'accélérer l'accès des nouveaux arrivants au poste de leadership. Voilà. En ce qui concerne la procédure de sélection, l'année dernière, il y a eu une discussion. Nous n'avons pas travaillé vraiment de la meilleure façon possible, mais il s'agissait d'un programme pilote et nous devions maintenir un certain équilibre entre les nouveaux arrivants et les leaders déjà qui étaient depuis longtemps dans ICAN. Donc, il y a 2 approches. La première, c'est qu'on demande à chaque RALO de décider quels sont les participants qu'ils veulent envoyer au programme. Le problème qu'il y a ici, c'est comment assurer ou garantir qu'on va avoir un bon équilibre entre les nouveaux arrivants et les leaders plus expérimentés. Nous avons besoin d'un bon équilibre à ce niveau-là pour notre cours de formation. Sinon, nous allons avoir un groupe de nouveaux arrivants seulement et ça ne sera pas vraiment utile pour eux comme formation. L'option numéro 2 sera que chaque RALO nomme 2 participants possibles, un participant qui vient d'entrer au sein de l'ICAN et un leader expérimenté. Donc, la LAC va prendre la décision finale. Il nous faut donc un équilibre au niveau des sexes aussi et des régions. Je voudrais demander maintenant au public s'il y a des questions ou des commentaires. Et ensuite, je demanderai à la salle de se mettre d'accord sur une de ces 2 options, la première ou la deuxième. Merci beaucoup, Sandra, dit Olivier Crépin-Leblanc. Je ne sais pas qui est la première personne. Donc, on va commencer de ce côté-là par Léon Sages, ensuite Alain Krimberg et ensuite Eduardo Diaz. Alain, vous avez la parole. Merci, Olivier. C'est Léon Sages. C'est un programme très utile, Sandra. Je me demandais, il y a 5 places pour ALAC, un par région, mais je pense que je ne sais pas s'il existe la possibilité d'augmenter le nombre de places pour le nombre de participants au nom d'ALAC dans ce programme. Parce que, par exemple, j'ai participé à des programmes antérieurs où Fatima, qui appartient aussi à l'ALAC RALO, à la région de l'ALAC RALO, n'a pas eu la possibilité de participer à ce cours de formation. Donc, j'aimerais partager ce que j'ai appris avec les autres. Et si je veux faire cela, Fatima va automatiquement perdre la possibilité de participer lors du prochain cycle, lors du prochain cours de formation que vous allez donner. Donc, j'aimerais savoir si on peut augmenter le nombre de places pour que ceux qui ont déjà participé au programme et ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'y participer puissent partager ce cours de formation lors donc de la prochaine édition. Léon, bien dit Sandra Hofer-Richter, bien sûr, Fatima peut se présenter, hein. Elle peut être sélectionnée. Je sais que le budget est très serré pour ce programme et que chaque participant signifie un coût élevé. Donc, ce n'est pas très réaliste à ce niveau-là. D'un autre côté, j'ai une certaine expérience de cours d'été, de cours de qui sont donnés pendant l'été. Par exemple, je sais que 25 personnes, c'est très bien, c'est parfait comme nombre. Dès qu'on dépasse ce chiffre, ça devient beaucoup plus compliqué et c'est difficile de travailler en groupe. C'est beaucoup plus difficile. Ensuite, le troisième problème, c'est qu'il nous faut voir quels sont les besoins de ces groupes. Hein? Si l'on peut justifier, on peut justifier 9 sites pour la GNSO et 5 sites pour ALAC parce qu'il y a 5 régions. Mais si vous nous demandez une sixième place, mettons qu'il en faudrait 2 par région, une dixième place ne serait pas justifiée vraiment. Donc, ce serait un problème. Voilà. Merci. Merci, Sandra. Dit Olivier, Alain Greenberg, vous avez la parole. Merci, Alain Greenberg prend la parole. Merci. C'était urgent, dit Olivier. Bien, Alain. Je vais faire le commentaire que j'ai fait lors de la première partie de la réunion, sauf que maintenant, on a moins de problèmes de temps. J'ai participé à beaucoup de programmes de formation au cours de ma carrière au sein de l'ICANN et je n'ai jamais vu de cas où l'on a donc sélectionné un groupe et où l'on aurait mis les instructeurs dans la même salle que dans le même groupe que les personnes à former. Je pense qu'Olivier est la meilleure personne pour être sélectionné comme formateur, mais les nouveaux arrivants et les personnes qui ont été nommées par le NOMCOM de l'Europe sont les meilleurs candidats pour être formés. Par conséquent, j'aimerais vraiment savoir s'il y a vraiment 5 places à utiliser. J'aimerais savoir qui pourrait être donc les meilleurs formateurs et ensuite sélectionner 2-3 personnes. Ce ne sera pas une personne par région, bien sûr, mais 2-3 personnes, des personnes qui pourraient tirer le meilleur profit de ce cours de formation. Ce concept, donc, est d'avoir les formateurs ou l'instructeur et les étudiants dans le même groupe, qui appartiennent au même groupe, n'a pas beaucoup de sens pour moi, me paraît un peu abstrait. Est-ce que vous voulez répondre à cela, Sandra Hofer-Richter? Je dois vous le dire. Nous avons des doutes sur la façon dont nous allons sélectionner les gens, sur la façon dont dont cela fonctionne, le fait qu'il y ait donc les nouveaux arrivants et les leaders et expérimentés qui soient dans le même groupe, c'est ça qui vous étonne? Alain Greenberg reprend la parole. Les deux choses sont liées, je pense. Je crois qu'il faudrait décider. On devrait nous dire combien de personnes on peut avoir comme formateurs. Et que ce soit un chiffre séparé ou qu'il y ait un total, le nombre d'étudiants que l'on peut sélectionner. Donc, les étudiants et les formateurs. Hein. Je pense que parce qu'un formateur vient d'une région, ça ne peut pas impliquer que l'on doive exclure les étudiants de cette même région. Ça n'a aucun sens. Et en même temps, cela va vraiment en l'encontre de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que s'il y a plus de 5 personnes, on a besoin de 10 places. Non, si on a 2 formateurs, il serait raisonnable à ce moment-là d'avoir 5 étudiants. Hein? Et que ça donne un chiffre de 7. Bien, mais même si on a un nombre total de 5, je voudrais que les formateurs soient sélectionnés et tout à fait correctement, et ensuite que les étudiants soient sélectionnés. Hein? Bien, merci, dit Olivier Crépin-Leblanc. Nous avons maintenant Eduardo et ensuite Wolf Ludwig. Eduardo Diaz, vous avez la parole. Allez-y. Bien, Eduardo Diaz prend la parole. Ma question est que j'aimerais qu'on comprenne bien, hein, quand vous parlez de ces gens, hein, ces gens vont avoir leur voyage et financer leurs frais de déplacement financés. Wolf Ludwig. Merci, Olivier. C'est Wolf Ludwig qui prend la parole. Lorsque j'ai écouté, en entendant, disons, le dernier échange, je me suis demandé pourquoi compliquer autant les choses, vraiment. C'est relativement facile. Nous avons seulement un candidat potentiel de nouvel arrivant. Donc, le membre qui va être sélectionné par le NAMCOM. Hein. Donc, c'est le seul nouvel arrivant hein, qui puisse entrer, hein. En tout cas dans notre communauté. Hein. C'est un seul candidat. Donc, dans notre communauté, dit Wolfgang, dans des contextes comme Euralo, hein, at large, c'est un seul candidat. Si le NOMCOM sélectionne une autre position pour l'Europe, ce sera un deuxième candidat. Donc, à mon avis, ce serait plus ou moins hein, un choix qui nous resterait pour 2 candidats pour la formation. En ce qui concerne les formateurs, il y a beaucoup de personnes expérimentées au sein de l'ICANN que nous pourrions suggérer pour la région pour que vous fassiez votre sélection finale du candidat idéal. Donc, voilà, la situation est quand même assez simple. Nous pouvons vous donner une réponse définie au mois d'août lorsque les candidats auront été sélectionnés par le NOMCOM. Voilà. Olivier Crépin-Leblanc. Merci, Wolf. Nous allons redonner la parole à Sandra et ensuite il nous faut avancer, s'il vous plaît. Sandra Overrichter, vous avez la parole. Merci, Olivier. Je pense qu'il y a une certaine confusion dans la salle. Je voudrais que ce soit plus clair et je vais vous expliquer. D'abord, nous ne pouvons pas avoir plus de 5 candidats parce que c'est un accord qui a été fait pour le groupe de travail d'ICANN Academy, il y a un budget, il n'y a pas besoin, on ne peut pas le changer, ce n'est pas possible. Deuxième point, le concept, et c'était en cours de discussion à Buenos Aires aussi, hein, le concept qui vise à mélanger des personnes expérimentées et les nouveaux arrivants pour que les personnes expérimentées soient des formateurs, ça fonctionne très, très bien. C'est un des meilleurs résultats de notre académie. Donc, nous allons garder ce concept. Nous ne voulons pas le modifier. Nous ne parlons pas de formateurs. Nous n'embauchons pas d'autres personnes. Nous n'engageons personne de plus parce que ça augmenterait notre groupe. Nous avons des contraintes budgétaires. Donc, l'année dernière, nous avons organisé cela en fonction d'un budget plutôt faible, hein, plutôt bas. Et ça a très bien marché parce que l'interaction dans ce groupe était très bonne, était meilleure que si on avait eu un formateur qui allait venir et qui allait repartir. Olivier était un facilitateur des sessions. Il est resté avec le groupe tout le temps et le groupe l'a vu, l'a entendu donner, faire des conférences et pouvait aller lui poser des questions et tout ça. Et ça a été très, très bien. Ça a bien marché. Maintenant, Wolf dit que pour l'Europe, on a un seul membre sélectionné du NOMCOM. Pour le RALO, nous pouvons envoyer cette nouvelle personne. Mais nous n'avons pas de personne expérimentée, par contre. Si toutes les régions décident de la même façon, nous allons envoyer un nouveau et une personne expérimentée, nous aurons de nouveau le problème d'avoir que des personnes nouveaux arrivants dans notre groupe. Et nous avons déjà dit que nous voulons un mélange de personnes expérimentées qui puissent donner des conférences sur certains points, sur certaines questions, et des personnes, donc, nouveaux arrivants. Donc, je vois que le défi pour ce groupe, pour les leaders des RALO, pour le leadership d'ALAP, d'ALAC et de parvenir à se mettre d'accord sur une procédure. S'il vous plaît, revenons à la diapo sur laquelle nous avions les deux options. Voilà, donc je vais vous demander. En réalité, je pense que la deuxième option est la meilleure. C'est peut-être pas la plus parfaite. On peut changer d'option l'année prochaine. Mais en tout cas, pour cette année, je vous propose qu'on continue comme ça. Je vais demander à ALAC et au leader des RALO de se mettre d'accord. Et je vais leur demander s'ils sont d'accord pour qu'on continue comme ça et qu'ils nous fassent leurs suggestions pour donc des leaders, donc nouveaux arrivants et expérimentés. Et ensuite, nous ferons une liste et où nous travaillerons à travers la liste de diffusion. Nous travaillerons dans la prochaine téléconférence comme vous voulez. Et Olivier, est-ce que vous pouvez m'aider ici pour conclure donc cette prise de décision? Olivier Crépin-Leblanc prend la parole. Oui, tout à fait, Sandra. Je crois que nous avons déjà la température de la salle et elle est un petit peu glacée. C'est-à-dire la proposition d'avoir seulement 5 personnes, de restreindre ce chiffre à 5 pour la communauté at large. Hein, la communauté at large serait la seule communauté qui devrait renoncer à certains de ces nouveaux arrivants et pour les former. Hein, je pense que les autres communautés envoient que leurs nouveaux arrivants à ce type de formation, n'est-ce pas? Allez-y. Et Sandra Vorichter, hein? Et il y a eu beaucoup de personnes expérimentées. C'était même des vétérans qui ont participé à ce cours de formation. Ils ont montré vraiment la valeur de ce concept, hein? Parce que, par exemple, une personne qui est un leader expérimenté a beaucoup appris des autres. Et puis, il y a des leaders arrivants qui peuvent aussi beaucoup apprendre des leaders plus expérimentés. Donc, bien, voyons. Nous allons voir combien de personnes et combien de membres d'ALAC sont contre cette proposition. De 5 membres d'at large qui comprendraient donc des personnes expérimentées et des personnes qui sont des nouveaux arrivants. Tijani, vous avez la parole. Tijani Benjema prend la parole. Et c'est seulement 5 personnes pour at large. C'est comme ça. C'est une décision qui a été prise. On n'a pas le choix. Mais si vous me laissez finir ma phrase, dit Olivier, je vais peut-être vous proposer l'appel au consensus que j'allais donner. Donc, il y a 5 personnes, peu importe si ce sont des personnes expérimentées ou pas. Et c'est Olivier Crépin-Leblanc qui parle. Et donc, selon la description faite par Sandra, en fonction du programme. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce programme en ce qui concerne at large? On peut voter ou on peut faire un appel consensus. Si on fait un appel à consensus, je vais demander aux personnes qui sont contre cette idée de lever la main, les personnes qui ont des objections à faire. À ce moment-là, nous ferons un appel une téléconférence spéciale pour parler de cela parce que je pense qu'il peut y avoir des confusions sinon. Bien, Alan Greenberg. Vous avez la parole. Alain Greenberg prend la parole. Sandra a dit que nous n'avions pas le choix. C'était 5 personnes ou moins, mais pas plus. Donc, la question est de voir comment nous allons choisir ces 5 personnes. Et à ce moment-là, on nous offre l'option 1 et l'option 2. Alors, la question est-ce que nous avons un consensus pour choisir l'option 2? C'est ce que Sandra demande, non? Bien, est-ce qu'il y a des objections? Rafatani,
pour le procès verbal. Non, je n'ai pas d'objection. Je voulais simplement soutenir l'option numéro 2 de Sandra. Olivier Crépin-Leblanc, merci.
Alors, on vient de le dire. Bien, alors, on recommence. On va voir quel est l'avis de la salle concernant la proposition numéro 2. Je vais devoir la relire, merci. Alors, Sandra, voulez-vous reprendre? Quelle est la proposition numéro 2, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Sandra Hofer-Richter qui prend la parole. L'option 2 inclurait que chaque RALO nomine deux participants potentiels, desquels un doit être un leader récemment nommé, l'autre doit être un dirigeant ayant de l'expérience. Il faut décider alors qui sera envoyé. Une personne par région pour ce programme, mais alors la décision sera-t-elle prise par la LAC et considérerait-il les personnes élues pour le NOMCOM comme candidat? Il faut considérer bien sûr toujours et tenir à l'esprit l'équilibre entre les personnes ayant de l'expérience et les nouveaux arrivants, les nouveaux venus. Donc si Euralo décide de choisir la personne qui a récemment été élue, c'est une décision de l'Euralo. Mais il faut qu'il nomine en même temps une personne ayant de l'expérience. Donc il faut qu'il nomine deux personnes, même s'ils ne savent toujours pas qui sera le nouveau venu. Olivier Crépin-Leblanc, merci Sandra. Alan Greenberg, j'allais soutenir l'option 2 suivant la recommandation de Sandra, mais j'avais compris que c'était à nous de choisir qui serait la personne une fois que le NOMCOM aurait nommé des personnes. Donc, par exemple, si en Amérique du Nord, il nomme une personne qui est complètement nouvelle, bien sûr qu'on va l'envoyer, mais si on a quelqu'un qui a déjà participé pendant cette année, ce n'est pas la bonne personne pour envoyer. Et donc, je pense qu'on doit pouvoir attendre au moins jusqu'aux nominations du NOMCOM. Pour les régions, le NOMCOM va nommer quelqu'un. Il faut qu'on attende jusqu'au moment de savoir qui va être nommé. Si c'est ça que l'on comprend, je soutiens l'option numéro 2. Olivier Crépin-Leblanc, merci. Alors, on recommence. Je demande l'appel à consensus. Est-ce que quelqu'un s'oppose? On n'a pas de main levée, ni de demande de parole pour s'opposer. Bien, Fatima Cambronero, elle a une question. Fatima Cambronero, merci Olivier, c'est Fatima Cambronero. Ma question est, pourquoi non, j'ai parlé en anglais, c'est pas la peine de mettre vos casques. Pourquoi la décision finale devrait être prise par la LAC et pas par les membres du groupe de travail de l'Académie ou du groupe de travail? Je ne sais pas. Pourquoi la LAC, en tout cas? Merci, Fatima, dit Olivier Crépin-Leblanc. Parce que le groupe de travail a été créé, à notre avis, et dans la charte, il dit que le groupe que la LAC doit accepter les propositions. C'est un groupe de travail qui appartient à la LAC et donc la LAC doit voter. Mais je pense qu'il y aura d'autres secteurs de la CAN qui vont devoir suivre la même procédure. Sandra Hofer-Richter prend la parole. Chaque groupe a ses propres procédures. Mais je comprends le commentaire d'Alan qui demande d'attendre jusqu'à ce que les personnes nommées par le NOMCOM aient été annoncées. Pendant qu'on prend la décision au sein de la LAC, j'expliquerai que c'est une question de partie prenante. Ce n'est pas une question d'académie de l'ICANN. On doit penser au niveau plus général. On ne doit pas penser à qui sélectionner. On nous propose des candidats et il faut qu'on s'occupe de façon transparente des personnes qui vont être nominées au sein de la LAC. Et Heidi, une question au personnel de l'ICANN. Je me souviens que les arrangements de voyage, l'organisation a été difficile une fois que les candidats ont été nommés. Il faudrait qu'on s'assure, ce qui était déjà aussi un problème pour d'autres unités consécutives, que l'organisation de voyage après la sélection du NOMCOM et après l'annonce des sélections du NOMCOM soit possible. Heidi Elvish. Heidi, qui êtes-vous? Heidi Elvish prend la parole. L'un des défis clés et des critiques à ce programme la dernière fois était qu'il n'y avait pas eu suffisamment de temps, que les annonces étaient trop tardives. Et certains des autres groupes, des ESSO et des AC, ont leurs élections très tard avant la réunion. Donc c'est aussi un problème. Alors c'est juste pour vous rappeler que ce programme n'offre pas des vols. C'est seulement des frais de dépenses et l'hôtel. Donc, si quelqu'un n'a pas de soutien de voyage pour ce qui est du vol, cela pose encore un autre problème qui doit être considéré, bien sûr. Olivier Crépin-Leblanc, merci. On va interrompre notre discussion. On est en retard et ce n'est pas juste pour les personnes qui viennent discuter les questions des autres groupes de travail. Si vous voulez continuer de discuter cela, on peut organiser un webinaire une semaine en juillet pour qu'on puisse vraiment définir ces questions. Pour l'appel à consensus, en fait, je n'ai pas eu d'objection, donc cela est approuvé. Merci. Ce n'est pas une motion, c'est simplement une demande de consensus. Et alors, on avance. On passe au point suivant. C'est le groupe des médias sociaux d'Atlarge, qui est présidé par Devan Antalaksin, qui est également venu nous parler du groupe de travail de la technologie et du programme pilote de sensibilisation régionale CROP. Alors, s'il pourrait nous parler de tout cela, brièvement, au moins de 30 minutes, il va avoir un petit cadeau qui viendra de la foire, bien sûr. Je ne bois pas, dit Devan Antalaksin, alors ce n'est pas un encouragement pour moi, une incitation. J'ai dit sans alcool, dit Elvie Crépin-Leblanc. Bon, je ferai de mon mieux. Alors, je voudrais que l'on voit les diapos du groupe de travail des réseaux sociaux d'Adlarge. Parfait. Devan Antalaksin au micro. Diapo suivante. Je vous rappellerai simplement ce qu'est ce groupe de travail. Il travaille avec la communauté d'Adlarge et il vise à renforcer la participation et la collaboration avec les parties prenantes. Diapo suivante. Comment faisons-nous le travail? On met en place la stratégie des médias sociaux pour Adlarge et on a un lien à cette stratégie sur les diapos. Vous pouvez aller revoir la présentation. C'est une présentation d'entre 20 et 30 diapos avec des notes. Suivante. Bien. Alors, le groupe a été créé comme groupe de travail de curation, de présentation. Et voilà pourquoi sa mission était de présenter des contenus. Ce groupe de travail a été créé à la fin d'avril 2014. Il a été approuvé par la LAC en mai 2014, lors de l'appel mensuel. Diapo suivante. Quelle est la tâche qui occupe le groupe de travail des réseaux sociaux? On présente des contenus fluides qui viennent de la liste annonce d'ALAC à LAC Announce. Donc, c'est les annonces de vote, les déclarations, les appels à commentaires. Ce sont les contenus fluides. On planifie et on rédige en même temps des contenus statiques. Ces contenus sont des informations de renforcement et de formation de compétences. Ce sont des diapos, des présentations qui ne changent pas aussi souvent. En même temps, on couvre également les réunions en personne à la CAN et les événements sur les réseaux sociaux. Nous facilitons également les interactions intercommunautaires sur les réseaux sociaux. On a travaillé avec d'autres comptes de réseaux sociaux de la CAN, par exemple. Nous allons faire un suivi de nos KPI de façon régulière et évaluer les canaux des réseaux sociaux pour leur expansion. Ce sont les meilleures pratiques qu'on a développées, les connaissances organisationnelles et la gestion des réseaux sociaux. Alors, le groupe de travail des réseaux sociaux a des membres de toutes les régions, y compris le sous-comité de sensibilisation, le groupe de travail de compétences et les groupes de travail de l'IETF. On a ici les membres du groupe de travail des réseaux sociaux d'Adlarge des 5 régions. Glenn McKnight est entre parenthèses parce qu'il n'est pas un membre officiel, mais il a beaucoup contribué. Alors, on l'a inclus à Naralo. Diapo suivante. On a ici nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Ariel nous a déjà montré certains des bulletins, des pages d'accueil de nos comptes de Twitter et de Facebook. Un mois avant le sommet Atlas et cette réunion de l'ICANN, on a beaucoup travaillé et on a obtenu des résultats qu'on trouve assez bons. On a des points sur la présentation de contenu qui sont constants et en cours en ce moment
pour partager les contenus sur les réseaux sociaux. On expérimente avec le partage de contenus dans d'autres langues et on évalue en même temps les plateformes de réseaux sociaux qui ne sont pas couvertes en ce moment pour voir ce que disent nos KPI. On évalue également des plateformes de réseaux sociaux. Si on devrait utiliser Google+, par exemple, ou pas. Malheureusement, Ariel n'est pas là, mais Ariel Leung, du personnel de la CAN, a été une personne essentielle pour travailler sur la finalisation de la stratégie des réseaux sociaux avec le groupe de travail de technologie. Elle a beaucoup travaillé. Et le groupe de travail de réseaux sociaux, en fait, envoie les contenus au personnel. Et c'est Ariel, celle qui, en fait, publie toutes ces informations sur Twitter, sur Facebook. Elle l'a fait de façon très efficace, 2 fois par jour. Et maintenant qu'on est à la réunion de la CAN, elle a publié plein de contenus. Je pense que des fois même jusqu'à 10 ou 15 publications par jour. Alors, un applaudissement pour Ariel. Mais on aimerait bien, si on pourrait écrire bien son nom de famille, s'il vous plaît, c'est mal écrit. Il s'appelle Liang. Je le corrigerai, dit Devan Antelaxing. Voilà ce que j'avais à dire pour la présentation du groupe de travail des réseaux sociaux à large. Dev, on n'a pas de temps de questions, dit Olivier, alors on va devoir passer à la présentation suivante. Devan Antelaxing. Alors, si l'ordre ne change rien, bien, on va voir alors la présentation sur une équipe de crop. Bien. Alors, la communauté à large a fait partie de ce programme pilote de sensibilisation régionale de la communauté à large. Voilà, diapo suivante. En fait, l'historique ici, le fondement, et qu'on nous a demandé des fonds de voyage pour l'exercice fiscal 2014. La CAN a développé ce programme pilote pour soutenir nos efforts de sensibilisation. Et donc, on a 5 régions individuelles et chacune a 5 voyages assignés. On a des déboursements assignés qui comprennent les vols, les hôtels et des dépenses et des déboursements quotidiens de jusqu'à 3 jours de nuit. Tout est réservé par ICANN Constituency Travel. La communauté à large révise et approuve ces fonds qui sont alloués, qui doivent être approuvés par le vice-président des stratégies d'engagement qui était là tout à l'heure. Cette présentation doit être présentée dans les 6 semaines avec la CAN. L'évaluation du voyage doit être présentée à un compte rendu dans les 3 semaines de retour à la propre ville. Donc, on peut avoir plusieurs personnes qui peuvent voyager à chaque événement de sensibilisation, mais on ne peut utiliser les fonds que pour une personne. Donc, si on décide d'envoyer une seule personne à un événement ou si on veut envoyer nos 5 personnes à la même réunion en même temps. Donc, on ne peut pas diviser les déboursements. On ne peut pas demander à une RALO de partager ses voyages avec une autre RALO. Ce n'est pas possible. Le voyage doit conclure et commencer et conclure dans la même région et doit être complété avant la fin de l'exercice fiscal 2015 de la CAN. Donc, cela doit être fait avant le 30 juin 2015. Alors, diapo suivante. Comment peut-on nous servir de ce processus? Les requêtes budgétaires des RALO sont revues par le sous-comité de finances de la CAN avant de le présenter au comité de finances. Et on a créé une équipe qui doit réviser et évaluer les demandes de fonds et qui doivent être donc révisés par les vice-présidents de stratégie de la CAN pour qu'ils l'évaluent. Donc, on a 2 membres de chaque RALO, 1 membre du sous-comité d'audit et du sous-comité des finances et de budget de la CAN ou de la LAC. On a ici les membres de l'équipe de révision de CROP de chaque région de At Large. Maintenant, pour nos propres lignes directrices, on va suivre les lignes directrices du programme CROP, mais une exigence clé est que les requêtes de voyage doivent être présentées 8 semaines avant le voyage. ICANN demande 6 semaines, mais ça nous prendra 2 semaines d'évaluer et de faire des commentaires pour mettre à jour la proposition comme nécessaire et d'obtenir l'approbation des vice-présidents de stratégie. Je l'ai déjà expliqué, on passe à la diapo suivante. Donc, je ne vais pas reprendre les propositions de voyage de l'exercice fiscal 2014 qui ont été publiées sur cette page wiki. Et dans l'intérêt de notre temps, on a des membres de l'équipe de révision du CROP auxquels on devrait remercier et des coordinateurs de cette équipe CROP de la ICANN également. J'ai maintenu des appels avec les coordinateurs et pour améliorer le processus de l'exercice fiscal 2015 qui fonctionne beaucoup mieux, qui a été simplifié. On devrait pouvoir faire du travail. Cette équipe a même conçu des formulaires simples. Et les coordinateurs de CROP vont noter cela, ils vont remarquer cela pour améliorer le processus. J'ai 2 notes à vous rappeler. Les équipes, les leaders de l'équipe vont communiquer avec nous parce qu'il y a des domaines où les membres d'At Large envoient des demandes de voyage sans informer cela aux leaders d'Eralo ou même aux membres de leurs équipes. Donc, il faut faire attention à la coordination et les RALO doivent considérer leurs propositions de voyage pour l'exercice fiscal 2015 également. Donc, vous avez 5 places pour voyager entre aujourd'hui et le 30 juin 2015. Alors, le RALO doit vraiment considérer quel est son calendrier d'activité d'engagement possible pour voir à quel voyage ils veulent assigner ces fonds. Peut-être qu'ils vont assigner beaucoup de fonds au premier mois et puis dans les derniers mois, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de fonds pour les événements qu'il leur reste. Donc, il faut tenir compte de cela. Voilà, c'est tout. Olivier Crépin-Leblond, merci Dave. Je vous ai demandé de nous encourager et nous transmettre votre enthousiasme, mais c'est pas du poker non plus. Je vais vous permettre 5 minutes pour les réponses des 3 questions que vous avez présentées. Alors, c'est le groupe de travail de technologie, le programme CROP et l'équipe de travail des réseaux sociaux. Il m'a manqué la présentation de l'équipe de technologie, dit Devan Antelaxing, mais je le fais ou pas? Olivier Crépin-Leblond, j'ai pensé que vous aviez déjà fait la présentation sur l'équipe de travail des technologies parce que vous avez parlé d'Ariel. Oui, non, dit Devan Antelaxing, ça me prendra 5 minutes. Allez-y, dit Olivier Crépin-Leblond. Devan Antelaxing, l'équipe de travail des technologies. Et je n'ai pas de présentation, je vais parler de ça dans l'air. Cette équipe de travail de technologie devait développer une stratégie des réseaux sociaux. À la fin, on avait une stratégie de réseaux sociaux que l'on partageait sur la liste de diffusion à la Canounce. Mais la stratégie des réseaux sociaux a été améliorée. Donc c'était ça la clé de ce qu'on avait à faire entre Singapour et aujourd'hui. On a fait des essais avec l'équipe d'informatique de l'ICANN, l'équipe des systèmes, qui ont mis en œuvre un plugin d'Adobe Connect. Et on a également essayé de nouveaux plugins d'Adobe Connect. En même temps, on a résolu le problème de plugin de traduction de Wiki Translate. On évalue des alternatives pour les installer, mais heureusement, la traduction du plugin a été faite à travers une mise à jour que l'équipe de l'ICANN a mis en place de façon immédiate et qui a commencé à travailler, à fonctionner pour le wiki de l'ICANN de façon immédiate également. Le groupe de travail de technologie a également travaillé avec le groupe de travail de réseaux sociaux qui devait coordonner les mises à jour qui aurait lieu pendant cette réunion en personne de l'ICANN. Et on se sert d'un système qui s'appelle Stack. C'est une application très intéressante. Suzy, pourrait-on la voir? Alors, ce système, cette application,
permet de canaliser des mises à jour, des groupes en canaux, en différentes voies. Donc on peut publier les questions et les documents par sujet. Une fois qu'on le fait, c'est beaucoup plus simple. Vous allez voir qu'on a un tableur de Google à un moment donné. Et une fois qu'on a découvert qu'on pouvait le faire à travers ces tableurs, ça a été beaucoup simplifié. C'est devenu plus simple et ça pourrait être très utile pour large même, parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui diront que l'on envoie beaucoup d'emails. Et donc cela évite ce problème. On a aussi une mise à jour sur la liste de diffusion, de traduction de l'Acralo. On a beaucoup demandé du personnel de la CAN parce qu'il s'agissait d'un problème urgent. Et on leur a demandé d'y travailler, de travailler dessus. Et on nous a envoyé une application de traduction qui est en train d'être testée. Ils viennent de lancer une nouvelle version il y a une semaine d'ailleurs. Alors c'est une des priorités qu'on a pour après Londres, c'est tout. Olivier Crépin-Leblond, merci beaucoup. Je vois que cette équipe de technologie a été très occupée et vous avez oublié de parler de la compatibilité entre Linux et Adobe Connect. Devan Antalaksing ? Oui, tout à fait, c'est vrai. On a créé une application de compatibilité. On a vu qu'il y avait des problèmes pour les gens qui se servaient de Linux et qui avaient du mal à travailler avec Adobe Connect. Donc on a envoyé cette application. Et il y a des personnes qui ont dit que c'était une application qui fonctionnait assez bien sous Converseur. Et grâce à cette application, et maintenant ils peuvent participer sur Linux. Olivier Crépin-Leblond, merci Dave. Il faudra que l'on remercie Scott Sullivan et son ALS en particulier. C'est bien de reconnaître les connaissances de la communauté. On va consacrer 3 minutes aux questions. Et Cyranoush Vardanyan, vous avez la parole. Cyranoush Vardanyan prend la parole. Merci. Je viens d'Aperalo et j'ai une question technique liée au programme CROP. Vous avez un formulaire en ligne pour les soumissions. Donc lorsque quelqu'un soumet un formulaire, l'information va directement aux membres de CROP. Serait-ce possible? Et c'était le cas de notre RALO qui n'a pas été préapprouvé par nos dirigeants. Serait-ce possible alors que nos dirigeants reçoivent ce formulaire d'abord? Ça pourrait être un formulaire en ligne, mais il devrait passer d'abord aux dirigeants des RALO et par la suite ajouter un bouton qui dise ou une case qui dise approuvé par le RALO, par les dirigeants du RALO. Donc comme ça, le président du RALO pourra l'approuver d'abord et par la suite, il devrait passer au CROP et à ce comité. Autrement, ils vont recevoir des formulaires qui n'ont pas été approuvés. Devan Antalaksing, merci. En tant que mise à jour de CROP 2015, on n'a pas d'espace pour les propositions de voyage préliminaires. Et donc, une fois que ces versions de propositions de voyage préliminaires ont été évaluées, on pourra décider si elles sont adoptées ou pas. Mais afin de les approuver et les modifier, etc., ils doivent d'abord passer par cette étape préliminaire pour ne pas avoir à réutiliser le formulaire de Google, ce qui simplifie beaucoup le processus. Concernant les versions préliminaires et la présentation de ces propositions préliminaires, l'équipe de révision pourrait le faire. Et donc, autrement dit, on ne peut pas présenter la proposition à moins que l'équipe de révision l'ait révisée. Donc, les RALO doivent vraiment travailler avec les membres de l'équipe de révision de CROP. Olivier Crépin-Leblond, merci beaucoup. On n'a plus le temps de questions-réponses. Et on passe à Tijani Benjema qui va présenter le groupe de travail d'At-Large sur le renforcement des capacités. Merci Olivier. Avant de parler du groupe de travail d'At-Large sur le renforcement de capacités, j'ajouterai que je comprends que le programme CROP devrait demander au RALO d'approuver tout voyage avant que cela devienne un projet du RALO. Ces places sont pour les RALO, pas pour les personnes individuelles. Et donc le projet doit nous venir des RALO. C'est clair, non? Ok. Alors je reviens au renforcement de compétences. Comme vous savez, nous avons beaucoup travaillé pour préparer
le programme de formation de compétences pour les ALS avant de venir ici à Londres, pour que les ALS soient plus ou moins préparés pour ce sommet. Et une fois qu'on avait choisi les sujets sur la base des demandes des ALS, on a préparé l'ordre du jour et le programme, et cela s'est traduit en 7 webinaires qui ont été réalisés avant Londres. Et je pense que c'était très utile pour les ALS. Certaines de ces séances et certains de ces webinaires avaient de bons niveaux de participation et d'autres n'avaient pas suffisamment de participation, ce que je comprends parce que c'est un problème de fuseau horaire et de travail. Des fois, les personnes sont en train de dormir ou de travailler. Mais heureusement, tout a été enregistré, donc vous pouvez revenir au webinaire, les écouter. Et vous avez également les présentations. Donc les personnes qui veulent assister à un webinaire et qui n'ont pas eu la possibilité de le faire peuvent revenir sur un webinaire et accéder aux informations. La première évaluation, je pense que ça a été utile, mais une évaluation finale sera faite une fois que le groupe de travail s'est réuni, en personne ou par téléphone, et une fois qu'on aura travaillé avec Gisela sur les formulaires de retour pour savoir si ça a été vraiment utile ou pas. Il s'agit ici du travail principal du groupe de travail de formation de compétences ces derniers mois. Merci. Tijani dit Olivier Crépin-Leblond de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions?
Maureen Elliott prend la parole. Merci Olivier. Je voudrais demander, est-ce qu'il y a une manière de savoir qui écoute les webinaires? Certains des webinaires n'ont pas eu beaucoup de public, mais je sais qu'il y a des webinaires et il y a aussi les enregistrements des webinaires. Est-ce qu'il y a une façon de savoir et qui a participé aux webinaires pour connaître vraiment l'utilité de ces webinaires, s'ils sont écoutés ou pas? Bien dit Olivier Crépin-Leblond. Il faudrait savoir combien de fois ce webinaire a été téléchargé, par exemple. C'est ça l'idée? Tijani, vous avez la parole. Oui, cela va être fait dans le rapport final du programme. Après l'évaluation, nous allons le faire après une téléconférence avec le groupe. Merci Tijani, dit Olivier Crépin-Leblond. Je pense que vous avez une idée des personnes qui participent au webinaire, mais il faudrait savoir s'il y a la possibilité de savoir combien de personnes ont téléchargé ce webinaire. Et je pense que dans le cas de mon groupe thématique, par exemple, on a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient téléchargé la téléconférence. Bien, la prochaine personne qui va prendre la parole est Edmond Chang et Rinalia Abdulrahim. Edmond est dans la salle. Nous allons parler du groupe de travail des politiques de l'IDN, sur l'IDN, relative à l'IDN. Edmond, vous avez la parole. Edmond Chong prend la parole. J'ai envoyé quelques notes, quelques diapos. Je ne sais pas si Suzy peut nous les montrer. En tout cas, il y a trois voies parallèles liées aux IDN. La première est le programme de TLD de variante IDN. Le deuxième, c'est l'acceptation, le programme d'acceptation universelle. Et le troisième programme, ce sont les données d'enregistrement international. Il y a trois secteurs qui sont de nouveau parallèles. Il y a un groupe de travail d'experts qui se focalise sur les différents aspects et les données qui devraient être internationalisées en ce qui concerne le WHOIS. Il y a un autre groupe de travail qui travaille sur la traduction et la translittération. Et ensuite, il y a un autre groupe de travail qui étudie la faisabilité de la traduction et la translittération. Voilà. Donc, en tout, on a 5 points particuliers qui ont lieu en même temps, qui sont liés à l'IDN. Hein, donc, 2 ont une période de commentaires qui est ouverte actuellement. Je vous recommanderais d'y répondre. La première, c'est le plan, la feuille de route qui a été présentée par le personnel de l'ICANN. Nous avons parlé de cela hier. Et puis, pour l'acceptation universelle, nous avons un certain nombre de commentaires préliminaires, notamment et la participation à de la communauté, certains travaux proactifs et pour lesquels il nous semble que les équipes d'ICANN pourraient participer et avoir leur propre système qui serait prêt pour les IDN. Cela inclut ICANN, cela inclut les bureaux d'enregistrement et cela inclut les titulaires de domaines. Ça, c'est pour la première période de travail. Et ensuite, nous travaillons sur la faisabilité de la translittération et la traduction. Donc, ce sont les données WHOIS et quelles partie d'entre elles devrait être internationalisée. Et si c'est le cas, est-ce que les outils de traduction ou de translittération devraient être utilisés? Et qui est-ce qui devrait donc avoir la responsabilité de réaliser ce processus de transformation? Donc, sur ce point particulier, je n'ai pas vraiment lu dans le détail, mais je pense que c'est un des aspects sur lesquels ALAC devrait se concentrer parce que je crois que c'est un point qui est lié au domaine qui nous intéresse. Et il s'agit notamment du fait que les gens utilisent différentes langues aujourd'hui. On ne peut pas utiliser seulement des caractères ASCII pour soumettre des informations de contact pour enregistrer un nom de domaine ou un GTLD. Cette série de travail donc est en train d'analyser ces aspects et de voir comment les gens peuvent soumettre leurs coordonnées ou leurs données de contact dans leur propre langue. C'est le premier point. Et ensuite, nous avons déjà couvert dans le détail le programme de TLD de variante IDN. Et donc, nous voulons faire un appel à volontaires pour regarder les langues et les écritures ou les scripts, pas seulement pour les variantes, hein, pour toutes les langues. Nous avons créé un tableau de langues pour la racine, pour le système de racine, qui est le système de TLD d'ICANN, de façon à ce que tout le monde puisse être invité à participer à cette recherche. Nous avons besoin de davantage de gens. Donc, hein, s'il vous plaît, et vous pouvez vous porter volontaire. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Edmond. Oui, c'est un appel à volontaires que nous sommes en train de faire, dit Olivier Crépin-Leblon. Si vous êtes capable d'écrire dans une autre langue qui ne soit pas seulement la langue latine, allez voir Edmond. De quel type de connaissances on a besoin pour pouvoir participer à ce groupe de travail, Edmond? Edmond prend la parole. En ce qui concerne le programme de variante de IDN, nous avons besoin de certaines expertises sur les aspects politiques, sur les aspects linguistiques, sur les aspects techniques aussi. Donc, notre idée, lorsqu'on a formé ce groupe pour une langue en particulier, c'était qu'on avait besoin de différents experts. C'est difficile de décrire en particulier et ce dont nous avons besoin. Nous cherchons des volontaires. Écrivez-moi si vous avez besoin de davantage d'informations. Il y a une session là-dessus et sur le site de l'ICANN aussi. Olivier prend la parole. Si on n'a pas de compétences spécifiques dans le domaine de la linguistique ou autre, mais qu'on sait comment écrire dans une autre langue, dans un alphabet X, Y ou Z, est-ce que c'est utile? À mon avis, ça serait très utile. Hein? Nous devons commencer parce que si nous avons des gens qui viennent de langues particulières, nous pouvons déjà commencer avec ces gens-là et ensuite ajouter des experts techniques ou plus linguistiques à ce groupe de travail. Mais au moins, on peut commencer. Merci. Cela confirme mon opinion, dit Olivier. Bon, Shivra Subramanian d'Inde. Edmond, j'ai une question à vous poser. Et pour la tâche de l'acceptation universelle, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous examinez l'acceptation des IDN? Au niveau de l'application, au niveau technique, est-ce que vous avez aussi l'intention d'examiner ce que je pourrais appeler l'acceptation universelle de l'IDN au niveau humain? Ici, ce dont je parle, c'est que si vous avez un nom de domaine en chinois, je ne pourrais pas reconnaître ce nom de domaine, ni le lire, ni l'utiliser. Donc, c'est un problème aussi que le groupe de travail examine. C'est une question. Est-ce que le groupe de travail examine ce type de problème? Edmond répond. D'abord, je dirais que ce n'est pas vraiment un groupe encore. Hein. C'est une feuille de route, un document que le personnel de l'AKN prépare. Je pense on en est à la période de commentaires à laquelle il faut répondre. Ce que je vous ai dit, c'est que vous pouvez ajouter des commentaires ici et je crois qu'il y a deux points importants ici. Le premier, la perception humaine. Hein, mettons qu'il s'agisse d'un poster ou d'un tableau, hein, quelque chose qui nous mène à décider qu'il s'agit d'un idéal. C'est une bonne question. Ensuite, le deuxième aspect, hein, et le fait que les gens qui parlent différentes langues soient capables de se rendre sur un nom de domaine particulier. C'est un problème plus fondamental. Lorsqu'on a d'abord discuté de la question de l'IDN, je dirais que c'est une longue discussion. Nom de domaine internationalisé. Hein. En tout cas, il s'agit d'un problème philosophique ici sur lequel on peut se pencher, dont on peut parler. Merci, Edmond. Je crois qu'il y a des personnes dans la salle qui sont capables d'écrire en arménien, en langue cyrillique, en alphabet cyrillique, en grec. Plusieurs personnes aussi qui peuvent écrire et utiliser d'autres alphabets. Et donc, je leur demanderai de dire au personnel de l'ICANN quels sont leurs intérêts et ensuite de voir un petit peu si on a le nombre de personnes nécessaires pour chaque langue. L'important, c'est de mettre ces langues sur la carte. Hein. De toute façon, ce sera un bénéfice pour votre communauté parce qu'ils seront sur la carte et on saura comme ça que c'est la prochaine langue sur laquelle il faut travailler et pour laquelle il faut trouver des experts. Bien, maintenant, le prochain groupe de travail, c'est le groupe de travail des nouveaux GTLD. Evan Libovitch, vous avez la parole. Evan Libovitch, merci. Merci, Olivier. Je dirais essentiellement que dans notre groupe de programmes qui travaillent sur le programme du nouveau GTLD. Nous sommes attelés à plusieurs engagements pour servir l'intérêt public dans le domaine des nouveaux GTLD. Et une proposition a été faite lors de la réunion de Singapour pour utiliser quelque chose qu'on appelle un tableau consultatif ou un comité consultatif de politique. Hein. Et donc, pendant la réunion de Singapour, c'est un des processus de commentaires publics qui a été donc réalisé. Ce processus de commentaires publics a été clos depuis. Nous avons reçu 25 commentaires. Normalement, le personnel devrait recueillir ces informations et nous la présenter sous forme de synthèse. Mais à cause de l'organisation d'Atlas et à cause d'autres problèmes que le personnel de l'ICANN a eu, ils sont un peu en retard. Donc, nous n'avons pas pu lire ce document. Nous n'avons pas pu regarder le document tel qu'il était dans sa forme complète et on attend la synthèse de ce document. J'aimerais bien pouvoir lire cette synthèse. Donc, nous ne pourrons pas faire cette présentation puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans le cadre du sommet. Mais je pense que dès que le sommet sera passé, nous allons nous réunir, voir comment nous continuons. Nous avons reçu quelques commentaires qui nous proposaient de continuer à avancer et de continuer à faire évoluer notre modèle. En même temps, nous avons constaté que nous n'avions pas le soutien de certains membres du GAC. Cependant, le GAC participe dans différents groupes de travail sur différents problèmes. Et donc, peut-être qu'il y a d'autres aspects qui sont plus prioritaires, d'autres questions qui sont plus prioritaires pour eux. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose qui s'est passé cette semaine. Nous continuons à demander aux gens de faire leurs commentaires. Le groupe de travail va avoir un plan d'action pour la reconsidération par ALAC de cette question quelque temps après notre réunion de Londres. Donc, merci beaucoup, Evan. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, bien. Merci pour le travail réalisé par ce groupe de travail. Passons au prochain groupe de travail. C'est donc le groupe de travail sur l'accessibilité à l'ICANN. Et nous donnons la parole à Sherry Langdonor. Je pensais que vous alliez prendre la parole pendant 2 ou 3 minutes seulement, dit Olivier Crépin-Leblanc. Bien, c'est à vous. Vous avez la parole, Cheryl. Merci, Olivier. Donc, Cheryl Langdonor, merci beaucoup de me laisser un peu de place pour vous parler d'une initiative dont vous avez déjà entendu parler à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui vient de commencer formellement et à Singapour lors de la dernière réunion. Cependant, et nous nous sommes focalisés sur notre engagement dans des activités liées à Atlas 2. Et puis, bien sûr, nous avions énormément de travail, le travail que nous avons normalement à faire et pour préparer les réunions d'ICANN. Et je dirais que le temps que nous avions entre Singapour et Londres était réduit. Il n'y a pas eu beaucoup, donc nous n'avons pas préparé grand-chose et je m'en excuse. Le groupe de travail, hein, la liste du groupe de travail a été donc établie. Il y a une liste de diffusion qui existe. Hein? Maintenant, je vous dirai que s'il y a des intérêts dans le domaine de l'accessibilité au niveau d'ICANN pour aider ICANN à devenir un modèle de meilleure pratique dans le domaine de l'accessibilité, faites-le nous savoir et nous serons ravis de vous inclure dans notre liste dans la liste des membres de notre groupe de travail. Il y a des gens qui peuvent participer plus ou moins. Hein, on peut avoir une page wiki, un espace wiki qui a déjà été ouvert d'ailleurs. Et je vous recommande donc, si ça vous intéresse, de rentrer sur cet espace wiki, de voir un petit peu, de le suivre, de voir ce qui s'y passe. Par exemple, j'espère que vous savez que dans le Dropbox de toutes nos ressources pour cette réunion se trouve un rapport d'une page et quelques d'excellente qualité. Non, 2 pages, d'accord. Donc, un document de 2 pages, donc très facile à lire, et dans lequel on parle de l'accessibilité pour les personnes handicapées, donc des lignes de conduite. C'est un thème sur lequel nous avons travaillé avec Ganela, qui est un membre de notre groupe de travail. Nous avons essayé de faire ce guide, et je voudrais que ICANN et Adlarge lisent cela. Il s'agit donc d'un travail que nous avons réalisé. Nous ne suggérons pas qu'il y ait quoi que ce soit de nouveau dans ce document. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il s'agit d'une page, un document d'une page et quelques. C'est quelque chose qui peut être très utile pour promouvoir la présence des personnes qui voudraient être plus présents et qui aimeraient pouvoir être plus présents aussi dans l'espace du web. Je voudrais aussi mentionner que Gunella vient d'arriver de sa présentation d'une présentation très courte et détaillée, mais détaillée de la CCNSO. et que c'était donc que dans l'espace de la CCNSO, nous avons posté une copie du PowerPoint qu'elle a utilisé pour que vous puissiez donc le lire, et on le mettra aussi dans le mémoire de cette page de cette session. Donc ça pourrait être aussi dans le rapport de cette session. En outre, je voudrais dire que comme, et je dois le dire, ça a été ma décision, il faut que ce soit très clair, c'est moi qui ai dit, tout le monde, y compris le personnel, sera trop occupé. Et donc, j'ai dit, en tant que présidente de ce groupe, nous n'aurons pas de réunion pour lors de cette réunion de l'ICANN. Cependant, si vous avez le temps, l'énergie, y compris le personnel de l'ICANN, nous allons nous réunir à 1h05. Jeudi, et vous pouvez venir, j'espère qu'on pourra avoir un petit café ou du thé, à 17h30, et que nous pourrons parler de ces problèmes, et nous verrons en particulier ce que cela peut apporter, quelle est l'utilité donc de ce guide. Et si vous pensez que c'est une bonne idée à ce moment-là, l'équipe de travail peut nous aider et continuer à travailler dans ce sens. Donc, je vous remercie et je vous rappelle à tous que c'est très, très important et que si vous voulez venir à cette réunion que nous organisons, venez. Ce sera, nous n'allons pas prendre de décisions contraignantes. C'est une réunion informelle. Même si nous n'avons pas eu de réunion pour cette Assemblée générale, nous allons nous réunir à Los Angeles parce que le personnel de l'ICANN veut vraiment et que l'on apparaisse, qu'on soit un peu plus présent lors de la réunion de Los Angeles. Et si on veut vraiment être présent et visible lors de la réunion de Los Angeles, nous devons commencer à travailler dès maintenant. Merci beaucoup. Bien, Olivier Crépin-Leblond dit que Christopher Montini est le personnel dont vous parlez. Il était dans la salle tout à l'heure, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, on voudrait voir des progrès au niveau de ce groupe. C'est intéressant de voir que ça a commencé au sein d'être large. C'est bien, on est content. Bien, la prochaine partie, et vous correspond aussi, Sherry Langdonor, c'est le sous-comité sur les paramètres. Donc, vous avez à nouveau la parole, Sherry. Bien, merci. Bien, on s'amuse un petit peu là avec le micro qu'on éteint et qu'on allume. Bien, voyons les paramètres. Bien, Maureen, vous êtes dans la salle. Je pensais que vous étiez ailleurs. OK. Et j'aimerais que ce soit ici les représentants de l'équipe, de façon à ce que donc le travail de ce groupe soit public. Ce comité donc sur les paramètres, qui est une section du groupe de travail sur les règles de procédure, et nous avons déjà parlé de tout cela, le sous-comité donc des paramètres, on est à une partie très intéressante et très importante de son travail. Maureen, qui est responsable des trois parties du sous-comité des paramètres, Tijani est responsable du processus général et de s'assurer que cela est en accord avec le travail réalisé par Alain et le reste du groupe de travail de révision. Mais Maureen a été l'interface avec vous tous. Et donc, je ne vais pas parler du travail réalisé entre maintenant et la dernière réunion, puisque c'est Maureen qui a fait tout ce travail. Donc, je ne veux pas m'attribuer des crédits qui ne me correspondent pas. Tout le travail a été fait par cette femme. Et donc, si vous voulez nous donner une petite mise à jour, Maureen, vous avez la parole. Merci, Cheryl. Maureen prend la parole. Je voudrais récapituler. À Singapour, nous avons recommandé de mettre en œuvre deux mesures concernant l'approche des attentes concernant la procédure des règles d'ALAC ou des réglementations d'ALAC et tenant compte des soucis ou des préoccupations et qui surgissaient des réponses des RALO lorsqu'ils avaient été consultés. Et nous avons donc décidé de mettre en œuvre deux mesures. La première, une mesure de participation et la deuxième, une mesure de rendement de performance. Donc, au niveau de la participation, cette mesure a été faite et a demandé des systèmes, méthodologies techniques que je ne connais pas, mais Deb le sait, c'est lui qui a organisé cela. Il a mesuré donc la participation aux réunions face à face, aux réunions en ligne. Les membres qui ont participé au groupe de travail au sein du groupe de travail d'ALAC. Et tout cela a été collecté et figure sur notre base de données. Donc, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à vous y rendre. Ensuite, on arrive à la partie de la performance. Et là, c'est un peu plus compliqué. Je pense que ce qu'on a fini par faire était un rapport qui a été fait par les membres d'ALAC. Qui a été fait par les membres d'ALAC, mais la responsabilité du RALO. Le RALO a pris la décision du temps, de la fréquence, de ce type de choses. Parce que c'est finalement le RALO qui doit prendre ce type de décision. La seule chose, c'est que nous étions très intéressés. Nous avons beaucoup apprécié de savoir hein, de la part des RALO quelles étaient vraiment les attentes concernant ce rapport de performance. Et donc, en faisant les choses comme ça, ce que nous voulions, c'était donc mettre la responsabilité sur le RALO. Hein, et pour les RALO, c'était un petit peu une préoccupation. Hein, ils avaient peur qu'on attende beaucoup trop de leur travail ou de leur part. Donc, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'actions entre nos deux assemblées générales, nous aimerions bien recevoir des commentaires, des RALO concernant leurs attentes, les attentes de vos membres, hein, pour donc et l'évaluation, la mesure des performances et au travail d'ALAC et la mesure de votre participation au travail d'ALAC. Et Chair Langdon reprend la parole. Merci, Maureen. Restez là. Je voudrais aussi vous dire que et nous avons aussi les structures at large qui entrent en jeu et les bénéfices, les niveaux de performance dont ils ont besoin pour continuer, pour maintenir leur travail. On n'ignore pas cela, pas du tout, hein. On a donc les paramètres, donc mécanismes de mesure, quelles sont les bonnes mesures pour vous, pour mesurer les structures à large, tout cela. Hein. Et toutes les régions, d'ailleurs, devraient avoir la capacité de les avoir. Hein, et les membres individuels aussi. Hein, parce que nous sommes heureux hein, de pouvoir, d'avoir un système de conservation de tous ces systèmes et que nous pouvons ensuite envoyer aux régions, aux ALS et le distribuer de manière harmonisée. Pourquoi c'est important? La plupart d'entre vous savent qu'il y a des structures qui, lorsqu'on a des mesures très pragmatiques, comme par exemple les emails, par exemple, savoir quelles sont les organisations qui n'existent plus. Nous avons besoin de le savoir. Donc, c'est quelque chose de très simple. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais ensuite, il y a d'autres choses plus compliquées qui sera probablement fait après Los Angeles et ce qui sera fait au niveau régional. Hein. C'est une question de parité entre les régions parce que sinon, ALAC ne peut pas avoir d'uniformité. Et puisque ce sont les structures à large. Donc, les ALS sont divisées en clusters au niveau géographique au sein de la région de l'organisation d'at large. Donc, et cela est lié au travail que fait notre groupe sur les paramètres. Donc, je voudrais savoir quel est le travail qui a été fait par AFRALO, parce qu'AFRALO a trouvé une façon très, très intelligente d'analyser cela. Et c'est que vous n'avez pas obligatoirement besoin de demander à une organisation et qui évalue les performances. Vous pouvez vous-même évaluer vos performances et certaines personnes vont pouvoir contribuer au niveau le plus bas. Donc, si vous avez un leadership régional et si ce que vous voulez évaluer est ce leadership régional et la façon de faire les choses, soyez sûr que moi, je suis tout à fait à l'aise concernant ce que AFRALO a dit et a fait jusqu'à maintenant. Et je pense qu'on peut faire encore pire si l'on fait une série de propositions de... Mais je pense que ce n'est pas très humain ni une façon très intelligente de faire les choses parce que si on doit aller voter, on a le problème du quorum, on a le problème des pourcentages, on a le problème de la façon de mesurer, la majorité, tout cela. Et donc, cela ne donne pas vraiment de clarté. Et il y a une solution qu'AFRALO a proposée. Je recommande, je sais que c'était il y a des années, mais retournez voir ce travail qui a été fait. Je voudrais prendre quelques minutes de plus pour vous parler des mécanismes de mesure, des mesures que nous avons voulu réaliser avec l'événement d'Atlas 2. Ce sont des mesures qui peuvent paraître très simples, mais par exemple la participation du public. C'est facile de voir qu'il y a 15 personnes dans la salle, ça c'est simple. Mais s'il y a 150 personnes dans la salle, déjà, c'est plus difficile. Et donc, nous avons essayé de trouver des mécanismes qui nous permettraient d'obtenir ce type de résultat plus facilement. Je sais que dans le passé, on a fait tourner une feuille que les gens devaient signer. Les gens devaient écrire leur nom et signer sur cette feuille. Donc, on avait un système qui nous permettait de savoir qui était dans la salle. Mais c'est un petit peu ridicule de faire cela aujourd'hui. Je crois que c'est tout à fait ridicule. Donc, ça ne marche pas. Donc, ce que nous avons fait, c'était pour trouver, donc pour fonctionner dans votre meilleur intérêt. Ça a été donc d'utiliser cela, il y a des codes ici que vous devez scanner, qui sont sur votre carte, qui sont sur votre carte de participation, sur votre accréditation pour la participation. Et donc, si vous le scannez, ça veut dire que vous avez été présent. On peut avoir un système un peu plus indiscret. Ce système n'est peut-être pas mal. Donc, voilà. J'ai passé un bon moment à expliquer cela parce que le personnel de l'ICAM s'inquiétait et pensait qu'il y aurait des gens qui auraient des problèmes et qui se sentiraient un peu harcelés au niveau de leur vie privée. Bien. Donc, si vous avez des problèmes dans ce sens, nous allons compter. Mais sachez que nous ne prenons aucune information concernant votre identité avec ce système de suivi que nous avons. Voilà. Vous devez nous croire. Chacun de ces codes sont identiques. Ces codes qui vont être enregistrés sont identiques. On ne va pas savoir quelle personne et appartient à ce code. C'est le même code. Olivier Crépin-Leblanc dit, je pensais que j'étais spécial. Oui, excusez-moi, je m'énerve. Bien. Donc, on peut avoir 3333 codes, mais qui vont être les mêmes. C'est une marque, c'est tout. On ne vous suit pas, hein, on n'est pas en train d'enquêter sur vos activités. Hein. Ce que nous voulons savoir, c'est les volontaires spéciaux, hein, et les mentorés, d'ALAC. Hein. Nous voudrions savoir, hein, leur organisation, leur code a été enregistré de manière spéciale, mais tout le monde sinon a le même code. Donc vous devez nous faire confiance. Voilà. J'ai passé un bon moment à expliquer cela au personnel de l'ICANN qui s'inquiétait sur ce point. Donc, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Maureen, je vous donne la parole.
Maureen Hilliard prend la parole. Je voulais juste reprendre la question des paramètres des ALS. Et les RALO ont déjà commencé à y travailler, je le sais. Bien que le système que Cheryl avait conçu était très cohérent et fonctionnait de la même façon partout, même pour les paramètres des ALS, on n'a pas besoin d'être cohérent. Il ne faut pas que ça fonctionne partout, ça doit fonctionner au sein de votre RALO. J'aimais bien voir que l'ACRALO nous montre leur système pour voir comment ils suivent l'assistance, la participation, la représentation des groupes et les droits. Et j'ai des paramètres. Certaines RALO pourraient ne pas être spécifiques. Mais en tout cas, chacun a ses propres mesures, ses propres paramètres, ses propres indicateurs. On n'a pas besoin d'utiliser tous le même système et les mêmes mesures. C'était pour l'ACRALO. Je sais que APRALO va s'organiser. Cheryl Langdonor, APRALO est une organisation consensuelle. Ça fait partie de nos règles. Alors, afin de voter, lorsqu'on vote, c'est une situation extraordinaire, y compris pour ces derniers votes, pour cette dernière élection, on n'a pas voté. On a élu 6 leaders par consensus. Si vous pensez que c'est impossible, on a eu des leaders de toutes les régions géographiques et sur mesure de leurs connaissances. Donc on a des gens de l'Est, du Centre, du Nord, du Sud, aussi au Sud que possible. On n'a personne en Antarctique, mais bon, en tout cas, on a des candidats qui couvrent toutes les possibilités et on les a choisis de façon consensuelle. Tijani, allez-y. Tijani Benjema, merci. Cheryl, c'est pas une question, c'est un commentaire. Pour les membres d'ALAC, j'adore ces rapports, ces autorapports qui soient considérés des indicateurs de performance ou des paramètres. Mais j'ai certaines questions à poser. Vous savez que les personnes qui travaillent beaucoup sont débiles lorsqu'il leur faut faire des rapports. Ils travaillent, ils sont pressés. Les personnes qui ne travaillent pas savent très bien comment projeter leur image dans les rapports. J'aime bien cet auto-rapport, mais qu'est-ce qui suit? Est-ce que le rapport pour le rapport même, si c'est ainsi, alors ce n'est pas censé de le faire. Ça n'a aucun sens. Il nous faut un mécanisme, même pour l'assistance, qui nous montre que les personnes qui viennent, les personnes peuvent venir, entrer leur nom sur Adobe Connect ou quoi que ce soit et partir. Ce n'est pas vraiment un paramètre qui montre vraiment la participation. Maureen Hilliard, je pense que cela pourrait être discuté par RALO. Voilà pourquoi on l'a divisé comme cela. Vous et votre RALO devront décider quelle est la façon la plus adéquate de le faire. Cheryl Langdonor, bien sûr, pour revenir sur ce point-là, je sais que les gens des réunions apprécie ne pas avoir ce genre de scanner que j'avais prévu. Les personnes peuvent très bien sûr, venir scanner leur badge et partir. Mais de toute façon, ça nous montre qui entre et qui sort. Et comme ça, on pourrait recueillir davantage d'informations, ce qui serait un autre aspect. Mike, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Allez-y, voilà. Garth Graham qui prend la parole. Je m'excuse de faire un commentaire négatif, mais je n'ai pas fait partie
de l'historique d'un projet qui vient de longue date, évidemment. Mais il faut que je dise que l'idée de mesurer la performance de la façon dont vous le décrivez dans une organisation de bénévoles, qui est un système auto-organisé, n'est pas une bonne idée. Elle me met mal à l'aise. Et puis, d'autre part, non, je ne veux pas qu'on le fasse. Et puis, d'autre part, dans un système distribué, je sais déjà quel est l'indicateur, quel sera le paramètre. Ce sera une paraloi. 80% du travail sera fait par 20% des participants. Ce n'est pas la peine de demander à Dev de trouver ce résultat. Cher Langdonneau, la prochaine question, Fatima. Fatima Cambronero, merci Cheryl. Je vais parler en espagnol parce qu'il est tard déjà. Je suis fatiguée. J'ai certains commentaires à faire pour l'enregistrement. Alors, je suis Fatima Cambronero. Je sais que ce sujet nous gêne un peu tous. Mais en tout cas, on parle de déléguer cette question au RALO, ce qui me semble assez compliqué. Dans notre RALO, les personnes ne répondent même plus aux courriels concernant les paramètres pour discuter des paramètres et des indicateurs de notre propre RALO. Nous allons le discuter demain dans notre Assemblée générale. C'est un des points et on espère pouvoir avancer dans ce sens. Pour ce qui est des rapports, comme Tijani dit, je suis d'accord avec lui, je n'ai pas eu du temps pour écrire les rapports de toutes les réunions auxquelles j'ai participé. Donc peut-être qu'on pourrait analyser cela également, voir si on pourrait avoir un rapport plus complet qui explique vraiment ce qui a été discuté ou quel a été le résultat principal de la réunion, etc. Lorsque chacun rentre chez lui et a le temps vraiment de penser à ce qui a été fait à cette réunion, ce qui a été accompli. Et dans ce cas-là, je suis triste de voir qu'il n'y a pas de personne de mon RALO ici, alors que je sais qu'il y a 42 ALS qui sont venus de mon RALO. Je vois deux ALS. Ce sont les questions qu'on aborde aujourd'hui et qui sont très importantes. Je suis triste de voir qu'ils n'ont pas été là. Cheryl Langdonneau, merci Fatima, merci d'avoir posé cette question. Je vois que vous transmettez également l'esprit de notre travail sur les paramètres. Et on le fera, c'est ça la question. On va créer un rapport plus complet pour vous l'envoyer. Et on travaillera davantage avec les RALO pour voir et pour parler plus avec Maureen et moi-même. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On doit finir. OK. Olivier Crépin-Lamblon, merci Cheryl. Pour conclure avec ce sujet, cette question, que la salle n'est pas complète, bien sûr, il y a 10 autres salles et j'ai rencontré un bon nombre de nos membres aux autres réunions. Et c'est exactement ce qu'on leur a demandé, particulièrement aux nouveaux venus, parce qu'on parle d'Adlarge avec Adlarge et on est tout le temps avec Adlarge. Ça ne sert pas. On est venu pour la réunion de la Cannes, pas seulement pour l'Adlarge. Et je pense que ce sera bien compris. Un dernier point avant de passer la parole à Cheryl pour qu'elle nous parle du comité de nomination porte sur l'incorporation des groupes de travail thématiques d'Adlarge avec lesquels on a travaillé jusqu'à présent et des discussions qu'on a maintenues dans ces groupes. Les groupes de travail permanents. J'ai publié un lien sur le chat sur ces groupes de travail permanents. Wolf, tu voulais prendre la parole? Wolf, allez-y. Wolf Ludwig, pour le procès-verbal. C'est juste une annonce que j'ai à faire. Je n'ai pas vu Jean-Jacques derrière Evan. Donc, je ne savais pas si Jean-Jacques était dans la salle ou pas. Alors, ça y est. Ce n'est plus la peine de faire mon commentaire. Jean-Jacques fera le commentaire lui-même. Alors, Jean-Jacques Subrenat prend la parole. Je m'excuse. Je n'ai pas compris quel est le commentaire que je dois faire. Wolf Ludwig. Avant-hier, nous nous sommes rendus compte
Pendant la clôture de notre groupe thématique, il y avait un bon nombre de points qu'on avait discutés qui portaient sur le groupe de travail d'Atlas et le groupe de travail à long terme et les groupes existants. Donc on sentait que ce serait peut-être raisonnable que ces groupes thématiques soient créés pour le deuxième sommet à large, c'est ce qu'on a pensé à l'époque, mais le long des discussions, il nous a semblé que ce serait peut-être sensé de continuer à travailler avec ces groupes, de les faire permanents, parce qu'on ne pouvait pas résoudre ces questions en 5 minutes. Donc on devrait peut-être réfléchir à la mesure dans laquelle les groupes de travail thématiques pourraient être incorporés aux groupes de travail Atlas existants, où certains aspects ne sont pas couverts, pour créer potentiellement un nouveau groupe de travail permanent. Olivier Crépin-Leblanc, merci beaucoup. Wolf, c'est effectivement ce qu'on va faire. Je vois Christopher. Christophe Burke. Merci, j'ai juste un commentaire bref. Je serai reconnaissant si vous envoyez un email à travers les différentes listes de diffusion de ces groupes de travail temporaires pour faire savoir aux membres où ils peuvent continuer à participer. Merci. Olivier Crépin-Leblanc, merci beaucoup Christophe. C'est précisément ce que je pensais faire comme étape suivante. Donc je demande au personnel d'en prendre note. Bien sûr, ces groupes de travail thématiques n'ont pas conclu leur travail. On sait qu'il y en a qui sont toujours en train de travailler sur la rédaction. D'ailleurs, il y a un bon nombre d'entre eux qui sont en train de rédiger leurs résultats. Et selon les recommandations de chaque groupe, on verra ce qui est censé. Une fois qu'on aura lu toutes les recommandations, on saura quelles sont les questions que ces groupes de travail dans l'ensemble ont abordées. Et on pourra voir à quoi correspond chaque recommandation, à quelles questions ça correspond, pour pouvoir faire un suivi avec un groupe de travail, de savoir à quel groupe de travail charger chaque sujet. Donc on va travailler avec le comité d'Atlas pour faire ce travail. Et puis, lorsqu'on fait ce suivi avec les groupes de travail thématiques et leur liste de diffusion, on ne peut pas rédiger les missions des groupes de travail permanents existants leur disant qu'il faut qu'ils fassent quelque chose absolument. Donc il faut choisir un groupe de travail sur la liste. Il n'y a pas beaucoup de travail quant aux listes des groupes de travail, sauf pour la liste d'Edmond qui a déjà parlé. Mais la première étape à suivre pour être large est donc de faire cela, de parler à travers les listes de diffusion. On a Eduardo, Susie et puis la présentation d'une homme comme Eduardo. Eduardo Diaz, merci Monsieur le Président. C'est Eduardo Diaz. Je voulais proposer qu'à la suite d'Atlas 2, à la fin, l'on fasse un suivi avec eux le long des années pour voir quelles recommandations ont été mises en œuvre. Comme ça, lorsqu'on organisera Atlas 3, on pourra voir quel a été notre niveau d'efficacité. Cher Langdonor, Eduardo, permettez-moi, bien sûr, cela est lié à mon sous-comité continu des investissements et des retours. C'est exactement ce qu'il nous fallait faire. Et ce qui est encore plus important est le rapport du retour des investissements d'Atlas 2. Et ce n'est pas simplement un travail qui finira avec un rapport à la fin de l'année. Ce sera un seul rapport à la fin de l'année. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il va falloir qu'on aborde différents points dans les mois suivants de l'année, parce que ça pourrait vous faire augmenter les activités, on pourrait voir des réductions dans les activités, on pourrait voir une augmentation rapide des activités et peut-être une augmentation plus tard. Alors, en ce moment, il faut que l'on commence à faire un suivi de ces aspects. Mais il faut que l'on fasse ces rapports absolument. Les rapports des présidents, par exemple, de ces réunions qui sont organisées 3 fois par an, nous permettent d'avoir une idée de la quantité de politiques qui ont été présentées par l'ALAC. Comme cela, on peut extraire ces données. Dans l'avenir, on pourra le faire, en tout cas. Et c'est pas pour vous que je dis cela, je sais que vous le savez déjà. Mais en ce moment, on pourra continuer avec Atlas 2 à la suite du sommet pour travailler sur nos observations du succès d'Atlas 2. Merci beaucoup, Cheryl. Merci, Olivier Crépin-Leblanc. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Cheryl? Des questions ou commentaires pour Cheryl? Non? On passe alors au point suivant, qu'est le NOMCOM. Cheryl, vous avez la parole. Cheryl Langdonor, merci. Je ne sais pas si si Urio veut venir et s'asseoir ici avec moi. C'est bon, on perd des personnes tout le temps. Pendant que Urio me rejoint ici, je sens que je devrais être amicale comme d'habitude. Mais non, en fait, il faut que je sois moins amicale, être plus sérieuse. Olivier Crépin-Leblanc, j'espère que la caméra pourra rétrécir un peu pour qu'on entre tous dans l'image. Ah, voilà. On est 2 minutes en retard déjà. Cheryl Langdonor, on n'a pas besoin de beaucoup plus de temps. Ce qu'on doit faire, et Urio le sait bien, on est un peu plus formel ici, donc je commencerai par vous dire bonjour, je m'appelle Cheryl Langdonor, et présenter Urio, mais on n'a plus le temps de le faire. Alors, nous venons vous voir. Urio était le président du NOMCOM l'année dernière, je suis la présidente du NOMCOM cette année, et cet espace vide est réservé au président du NOMCOM, qui est élu, mais n'est pas confirmé par le conseil d'administration d'ICANN, c'est Stéphane Van Gelder. Alors, imaginez que Stéphane ici. Alors, on voulait que vous vous habituiez à ces trois visages, parce qu'apparemment, à la moitié de la réunion, donc en ce moment, tout le travail entre guillemets du NOMCOM est loin d'être achevé. Mercredi matin, donc demain matin, nous allons présenter un rapport qui sera très informel, mais nous espérons très détaillé aussi, sur un processus de ce qu'on a fait et comment on l'a fait cette année avec la communauté. Et je vous invite à venir, ce serait très bien de vous avoir. Et on continuera, une fois qu'on aura délibéré, s'engager avec la communauté pour développer un meilleur mobile. Et vous, en tant que partie significative de la représentation des utilisateurs finaux à l'ICANN, c'est cette partie significative de la représentation des utilisateurs finaux qui a lieu à l'ICANN, dépend de vous. On essaie d'atteindre des résultats qui finissent avec les influences externes, les dirigeants de pensée, les leaders intellectuels externes et les directeurs indépendants et les dirigeants de ces comités, de ces conseils. Alors, on va vous demander directement votre aide pour le reste de la communauté de l'ICANN pour nous aider à développer un modèle amélioré. Pendant que Urio était le président, on a beaucoup avancé. On voudrait continuer à aller de l'avant et on espère qu'on suivra ce sentier. Mais on voudrait interagir avec vous en tant que communauté de façon approfondie entre maintenant et la réunion de Los Angeles. L'un des aspects principaux est trouver ou confirmer les membres que la LAC voudrait suggérer pour le NOMCOM de 2015. Donc, on vous donne ici beaucoup de pouvoir. Cette période est presque finie et le moment est venu de considérer si vous avez besoin de rafraîchir votre vivier de talent ou si vous ne voulez plus faire partie de votre vivier de talent. Sachant de quoi il s'agit, il faudrait interagir et demander cela aux personnes qui participent en ce moment pour voir s'ils veulent continuer ou pas. Olivier Crépin-Leblond, merci beaucoup, Cheryl. On pourrait ajouter une action à suivre pour que le personnel envoie une note aux membres actuels du comité de nomination. Derralo, je suis un peu fatiguée, non? Non, c'est pas ça. Ça doit être le fait que j'ai deux personnes du NOMCOM autour de moi. Je me sens un peu pressée. C'est la panique, hein? Non, c'est pas vrai. C'est du sarcasme, c'est l'humour anglaise. On reviendra au NOMCOM plus tard. Est-ce qu'il y a des questions pour le NOMCOM? Jean-Jacques Suprenin.
Thank you. This is Jean-Jacques.
Merci, c'est Jean-Jacques Suprenin qui prend la parole. Ces dernières deux années, j'ai déjà posé cette question, mais il me semble qu'il est nécessaire de la reprendre, de reposer cette question. Elle porte sur cette secte d'utilisateurs. À partir de la communauté d'utilisateurs que nous représentons, je crois que cette question est d'une importance encore plus grande maintenant que l'intérêt des utilisateurs, du point de vue de l'utilisateur, a été proposé par la LAC spécialement avec le sommet Atlas 2. Donc ma question et peut-être commentaire même est, si de par le passé nous avons vu à travers différents exemples que le plus on a de compétences, le plus on risque de rater des caractéristiques plus importantes telles que l'honnêteté, l'indépendance d'idées, de pensée et les intérêts de l'intérêt du public. Au lieu que d'avoir les meilleurs contenus au monde ou d'être le meilleur rapporteur pour les révisions, etc. Donc je voudrais encore une fois vous rappeler l'intérêt limité d'adhérer aux compétences qui ont été déjà incluses et priorisées par le Conseil depuis des années. Donc, quand j'étais au Conseil d'administration, par exemple, vers la fin de mon mandat, je voyais que tout le monde parlait de la nécessité de cadre de société qui ait au moins 100 millions de dollars dans leur compte bancaire pour le budget. Mais alors, quand parlerait-on de l'indépendance, du non-conflit des autres? On a vu un nombre de résultats sans l'élection. Donc, c'est une façon de capture indirecte de l'ICANN. Cheryl Langdonor, permettez-moi brièvement de vous remercier de cette déclaration, parce que c'est une déclaration que vous faites. Et effectivement, le travail avec le comité de gouvernance du Conseil de cette année vise à assurer que même les critères du Conseil ne soient pas susceptibles d'être lus par les membres du comité de nomination comme une demande de membres du NOMCOM que les organisations qui font vraiment la nomination et le nommement et qui proposent des candidats vont inclure donc cette directive, une compréhension claire qu'il ne s'agit pas d'exigence, que ce sont des caractéristiques que le Conseil souhaiterait voir. Et effectivement, il faut considérer donc ces caractéristiques dans la matrice complète des compétences existantes dans les conseils, le conseil d'administration ou la LAC et des candidats qu'on leur envoie. Parce que j'étais très frustrée d'entendre dire qu'il s'agissait d'exigences du conseil, qu'il fallait respecter, qu'il cherchait à avoir des conseils. À l'époque, c'était une exigence, mais qui devenait assez exclusive, au moins. C'était ce qu'on sentait. Donc apparemment, ce que l'organisme récepteur mentionne comme caractéristique souhaitable ou essentielle sera considéré un indicateur, pas des exigences. Uriot, vous voulez prendre la parole?
Thank you.
Oui, merci. Urio Yanchebulo. Juste pour vous dire que les compétences ne sont pas les seules spécifications que nous avons, parce qu'il y a aussi des compétences plus générales et plus importantes, comme par exemple l'indépendance d'esprit. Vous les trouverez dans les statuts, d'ailleurs. Et c'est bien sûr notre premier objectif, je dirais. Merci beaucoup, Orio. Merci, Cheryl, pour votre présentation, qui n'en était pas une, mais qui nous a permis d'avoir les informations dont nous avions besoin. Nous avons quelques annonces avant de partir. Groupe thématique 1, vous allez vous réunir autour des vannes. Il y a la foire qui commence dans une demi-heure, un peu plus. Donc, la salle a lieu dans la salle Sandringham. C'est une grande salle, la salle dans laquelle nous sommes réunis aujourd'hui avec le conseil. Rappelez-vous que vous devez porter les couleurs de votre râleau, jaune pour l'Amérique du Nord, bleu pour l'Europe, vert pour l'Amérique latine et les Caraïbes, orange pour l'Afrique et rouge pour Apralon. Voilà. Donc, essayez de porter les couleurs de votre râleau. Comme ça, la communauté saura à quelle région vous appartenez. Il y aura de la musique. Il y aura des membres de la communauté at large et des membres qui ne sont pas de la communauté at large. C'est une espèce de music night d'at large. Et nous aurons Wolfgang Kleinrichter qui vont faire donc une intervention. Nous aurons une vidéo de windsurf. Donc, ça a lieu à 7h30, 19h30. Hein, donc, essayez d'être ponctuel. Bien. Et maintenant, rien de plus. Bon, et bien alors, merci de votre présence et nous remercions les interprètes qui sont restés un quart d'heure de plus. Merci. Et qui ont dû traduire beaucoup de choses cet après-midi. Bien, je voudrais aussi remercier l'équipe technique qui a permis que le son fonctionne bien. Et la caméra aussi, le caméraman. Merci. Donc, merci à tous. Cette journée de travail est terminée. Merci à tous. Thank you.